Boulon manquant, votre rendez-vous neurosciences. L'émission dans laquelle nos neurones roulent des mécaniques. Un jeudi par mois, à 18h, sur Radio Campus Paris, 93.9 FM.
L'article du jour s'intitule « Auditory activity sustains adult neurogenesis and cognition to the locus coeruleus norepinephrine system » ou « Comment un circuit de l'audition impacte directement les capacités cognitives chez la souris ». Il est paru dans la revue Cell Stem Cell le 2 avril 2026. Chère tête bien faite, bonsoir et bienvenue au Boulon manquant. Si je vous dis les sens du corps humain, vous penserez sûrement à la vue ou à l'ouïe en premier. Dans notre société, ce sont les deux sens les plus importants pour interagir avec le monde autour de nous. D'ailleurs, avez-vous déjà vécu un épisode de baisse auditive ? Peut-être que vous connaissez quelqu'un avec une audition défaillante. Dans les deux cas, les effets sur l'attention et l'intégration sociale sont aussi bien ressentis que démontrés cliniquement. La littérature scientifique va même plus loin. Dans son rapport de 2024 sur la prévention et le traitement de la démence, la prestigieuse revue The Lancet indique la perte d'audition comme un facteur de risque dans le déclin cognitif et la démence, au même titre que le tabagisme, le diabète ou encore la sédentarité. En fait, elle identifie la perte d'audition comme le plus grand facteur de risque modulable chez les personnes d'âge moyen à l'échelle de la population. Alors, comment expliquer ce lien apparemment si commun ? Plusieurs hypothèses existent, chacune s'appuyant sur un phénomène observé. Les causes de la perte d'audition sont multiples, tout comme celles menant au déclin cognitif. Elles ne sont donc pas mutuellement exclusives, mais l'idée serait d'identifier celle qui explique le cas le plus général. Selon l'hypothèse de la privation sensorielle, c'est à cause du fait que nous attribuons plus de ressources cognitives au traitement de l'information auditive pour compenser la défaillance. Celle de la dégradation informationnelle décrit un effet papillon. Si l'on perçoit moins bien, on comprend moins bien. Donc, toutes les fonctions cognitives qui dépendent de notre compréhension s'en trouvent dégradées à terme. Enfin, l'hypothèse de la cause commune, moins soutenue par la littérature, l'explique par un autre trouble neurologique qui affecterait les circuits sensoriels et cognitifs indépendamment. En octobre 2024, des chercheurs de l'INSERM ont publié les résultats d'une étude comparative sur plus de 60 000 participants à travers la France. Âgés de 45 à 65 ans, leurs capacités cognitives ont été mesurées et comparées avec leurs données audiométriques. Point fort de cette étude, les chercheurs ont pu comparer le risque de démence entre des patients dont la perte d'audition était compensée ou non par des aides auditives. Résultat, si la perte d'audition est corrélée avec un risque accru de déclin cognitif, les aides auditives ne réduisent pas le risque. Ce constat démontre que les mécanismes neurologiques impliqués sont complexes et souligne le besoin de les identifier concrètement. Pour mieux comprendre les interactions entre perte d'audition et cognition, il faudrait pouvoir moduler différents circuits neuronaux dans un contexte contrôlable. C'est précisément ce qu'ont fait des chercheurs de l'Académie chinoise des sciences à l'Institut de génétique et de biologie du développement. Après avoir éliminé les neurones sensoriels de l'oreille interne, ils ont constaté une dégradation de la mémoire des souris. Grâce à des traceurs moléculaires, ils ont pu reconstituer un parcours neuronal qui relie l'un des circuits auditifs et l'hippocampe. Cette structure analogue entre les mammifères a la particularité de produire régulièrement de nouveaux neurones, un phénomène crucial dans la formation de nouveaux souvenirs. En stimulant les connexions à une étape intermédiaire du parcours, ils ont réussi à raviver cette activité de l'hippocampe et par là même à rétablir les capacités cognitives des souris malentendantes. Réglez le volume et ouvrez grand vos oreilles. Aujourd'hui, nous partons en excursion guidée de l'audition à la mémoire. Étape 1. c'est toujours l'hippocampe. Notre étude commence avec une lignée de souris génétiquement modifiée. Très courantes en recherche, elles permettent de moduler très finement les mécanismes physiologiques. Pour induire une perte d'audition partielle, nos chercheurs visent les cellules ciliées externes, des neurones que l'on retrouve dans l'oreille interne et qui amplifient le signal auditif. C'est pourquoi ils utilisent une lignée de souris portant une mutation sur un gène spécifique à ces cellules. Cette mutation rend les cellules ciliées externes sensibles à la toxine diphtérique. Une injection à faible dose suffit à les éliminer sans endommager le reste de l'organisme, notamment le reste du circuit auditif. 3 semaines après l'injection de la toxine ou d'un produit contrôle, les souris sont testées sur 4 aspects. Leur audition, leur capacité de mémorisation, leur mobilité et leur niveau de stress. Le premier leur indique que le protocole a fonctionné. Les souris entendent beaucoup moins bien. Le stress, évalué par le niveau de corticostérone et des tests comportementaux, ne montre aucune différence, et les observations du tissu cérébral ne montrent pas d'inflammation. Il en va de même pour la mobilité. En revanche, les souris malentendantes présentent des troubles de mémorisation. Durant les tests de nouveauté, elles explorent moins les objets nouveaux. Elles réagissent moins aux tests de conditionnement de peur. En observant leur tissu cérébral, l'équipe de recherche constate 2 choses. Il y a moins de neurones actifs le long des circuits auditifs, comme on pouvait s'y attendre, et leur hippocampe présente moins de cellules souches actives, ainsi que moins de nouveaux neurones. L'hippocampe est une structure cruciale dans l'apprentissage. Il se distingue entre autres par ses cellules souches neurales adultes, qui produisent de nouveaux neurones tout au long de la vie. Cette capacité est particulièrement touchée dans les cas de vieillissement cognitif et de maladies neurodégénératives, notamment dans la maladie d'Alzheimer. Les chercheurs n'ont pas vu d'inflammation du cerveau, ce qui suggère que leur protocole a impacté un mécanisme qui maintient la neurogénèse de l'hippocampe à travers les circuits auditifs. Maintenant, reste à identifier lequel. Étape 2. Suivez les traceurs. Hippocampe, rétine, amygdale. Quand des neurones appartiennent à la même structure, c'est qu'ils remplissent une fonction similaire et qu'ils transfèrent leurs informations aux mêmes cibles, n'est-ce pas? Presque. Les neurones sont une population de cellules très diversifiées, y compris à l'intérieur d'une structure. C'est d'ailleurs ce qui permet à une information d'être communiquée simultanément à plusieurs régions, comme pour coordonner la vision et les mouvements par exemple. Dans ce contexte, comment faire pour retracer un circuit entre différentes régions du cerveau? Imaginez que l'hippocampe est un grand relais à la croisée de plusieurs chemins de randonnée. Avec une carte de tous les chemins possibles, comment vous y prendriez-vous pour identifier les relais intermédiaires entre l'hippocampe et les circuits auditifs, qui constituent eux-mêmes plusieurs chemins possibles avec différents relais? Car il existe 3 circuits auditifs différents chez la souris. Le canonique, qui génère la perception auditive. Le circuit réticulo-limbique, plutôt lié aux émotions, à l'attention et à la mémoire. Quant au dernier, il régule le réflexe d'alarme acoustique, activé par des bruits soudains et très forts. Vous pourriez par exemple envoyer une personne sur chacun des chemins qui partent de l'hippocampe jusqu'au prochain relais. Si l'une des personnes arrive dans un relais appartenant à un circuit auditif, elle pourra ensuite enquêter pour savoir si le trafic de voyageurs entre l'hippocampe et son relais a été affecté par la perte d'audition. Notre équipe de chercheurs a appliqué une logique similaire avec des traceurs fluorescents capables de traverser les neurones. Dans une première expérience, ils injectent dans l'hippocampe un traceur rétrograde, c'est-à-dire capable de marquer les structures qui envoient des informations à l'hippocampe. Dans ces liaisons directes, ils découvrent 2 structures qui font partie du 2e circuit auditif, à savoir le circuit réticulo-limbique. Seulement, une observation approfondie montre que leurs connexions avec l'hippocampe n'ont pas été affectées par la perte d'audition des souris. Il faut donc creuser un peu plus loin. Une autres structures attirent leur attention. Sans appartenir directement à un circuit auditif, elles présentent moins de neurones actifs chez les souris malentendantes. Cette structure, c'est le locus coeruleus, ou noyau bleu, qui tient son nom de sa forte concentration en mélanine. Situé dans le tronc cérébral, il est petit et très puissant. Il comprend la majorité des neurones noradrénergiques du cerveau qui sont impliqués dans la régulation du sommeil, l'attention, l'équilibre, la réponse du corps au stress. Un relais tout aussi casse-tête que l'hippocampe, donc. Pour déterminer son rapport avec les circuits auditifs, l'équipe utilise la stratégie inverse. Elle injecte toutes les régions cérébrales impliquées dans l'audition avec un marqueur entérograde, c'est-à-dire qui peut migrer vers les structures qui reçoivent leurs informations. Cette expérience leur donne un indice. Dans le circuit auditif réticulo-limbique, une autre structure du tronc cérébral communique avec le noyau bleu. C'est le noyau réticulaire du pont caudal, qu'on va appeler PNC, appelé réticulaire parce qu'il forme une structure semblable à un réseau. Les observations en microscope le confirment. Parmi les différentes populations de neurones du PNC, ceux qui communiquent avec le noyau bleu ont le même profil que ceux qui font transiter l'information auditive. Donc, pour résumer, nous avons identifié un parcours possible qui explique le lien entre la baisse de production de neurones dans l'hippocampe et la perte d'audition chez ces souris. On a d'abord l'oreille interne qui envoie des signaux à trois circuits auditifs, dont le réticulo limbique, et qui comprend le PNC. Ce dernier passe le relais aux autres structures du circuit, mais il envoie aussi des informations au noyau bleu. Maintenant, reste à prouver que cette interaction agit sur la production de nouveaux neurones dans l'hippocampe et sur la mémoire. Étape 3. Le PNC, porteur d'espoir. Par où commencer ? Eh bien déjà, il faut vérifier que l'interaction PNC-noyau bleu agit bien sur l'hippocampe. Qu'est-ce qu'il s'y passe quand on joue avec ? De là se pose une autre question. Comment observer l'effet d'une structure cérébrale ? La manière la plus directe serait d'utiliser un outil qui permette d'augmenter ou de diminuer son activité. Si l'activité de l'hippocampe en dépend, cette dernière en sera affectée aussi. Pour cela, nos chercheurs vont injecter dans le noyau du pont, ou PNC, un vecteur viral synthétique. Rien de pathogène ici, mais on conserve sa capacité à infecter les cellules pour leur inoculer un gène sensible à une drogue, le CNO. Dans un premier groupe, on utilise un gène stimulant, dans le deuxième, un gène répresseur. On a donc un système qui cible une structure précise et activable au moment souhaité par simple injection de CNO. Nous sommes sur la bonne voie. Reste à observer la réaction de l'hippocampe en fin de parcours. On ne change pas une équipe qui gagne. Utilisons un autre vecteur viral, porteur d'un gène différent. Celui-là code un détecteur par fluorescence de noradrénaline, le neurotransmetteur envoyé par le noyau bleu à l'hippocampe. Avec ce détecteur fluorescent, on constate que l'activité de l'hippocampe dépendant de la noradrénaline augmente lorsqu'on stimule le PNC et diminue lorsqu'on le réprime. Comme la noradrénaline vient très probablement du noyau bleu dans ce circuit, on peut en déduire que le circuit auditif de la souris passant par le PNC régule indirectement l'activité de l'hippocampe par le biais du noyau bleu. Reste à démontrer que le noyau bleu est bien l'intermédiaire entre les deux. Comme l'activité d'un neurone dépend de l'ouverture de canaux faisant passer des molécules chargées positivement ou négativement, la communauté scientifique a développé des gènes codant pour des canaux dont l'exposition à la bonne longueur d'onde lumineuse suffit à les activer. Ces gènes s'inspirent des canaux présents dans les photorécepteurs de nos yeux. L'équilibre des charges positives et négatives s'en trouve modifié, ce qui peut, selon le canal choisi, exciter ou réprimer instantanément l'activité neuronale. Mettez un de ces gènes dans un vecteur viral et vous obtenez une technique classique d'optogénétique, un domaine de recherche dont l'objectif est de modifier génétiquement des cellules pour les distinguer des autres simplement avec de la lumière. Un vecteur viral rétrograde est donc injecté dans l'hippocampe. Comme pour les traceurs, ce dernier peut migrer vers toutes les régions qui transmettent des informations à l'hippocampe, mais il est entouré de garde-fous qui ne rendent son expression possible que dans le noyau bleu. Pour les souris dont le PNC a reçu un vecteur stimulant, ce vecteur code pour un canal photosensible qui réprime l'activité neuronale. Lorsque le PNC est stimulé par injection de la drogue CNO, l'activité de l'hippocampe s'en trouve augmentée. Mais avec un signal lumineux, qui ne peut donc viser que le noyau bleu, elle redescend à son niveau initial. Il répète le procédé chez les souris dont le PNC a reçu un vecteur inhibiteur, avec un canal photosensible stimulant. Même résultat. Alors que l'activité de l'hippocampe a été diminuée par l'injection de CNO, la stimulation lumineuse l'a faite remonter à son niveau initial. Cette fois, c'est démontré. Le circuit auditif réticulo-limbique, par l'intermédiaire du PNC, interagit avec le noyau bleu, ce qui a pour effet de réguler l'activité de l'hippocampe. Et du coup, quel est l'impact de cette influence sur la neurogénèse et la mémoire ? Pour le savoir, l'équipe a comparé des souris rendues malentendantes et des souris contrôle, dont le PNC a été stimulé ou non. Lorsqu'ils les ont soumises aux tests de mémorisation, comme celui du nouvel objet ou le conditionnement de peur, les souris malentendantes dont le PNC a été stimulé recouvraient leur capacité cognitive. Les observations au microscope ont également montré que leur hippocampe produisait autant de nouveaux neurones que les souris contrôles. Et lorsqu'ils empêchent la division cellulaire, cet effet positif sur leur cognition disparaît, ce qui confirme que la restauration de leur capacité cognitive est bien due à cette neurogénèse. Non seulement cette étude a identifié un mécanisme par lequel l'audition contribue à la consolidation de la mémoire, mais ce faisant, elle a trouvé un chemin de traverse qui l'exploite pour compenser le déclin cognitif causé par la perte d'audition. Bon, de là à appliquer la même logique chez l'humain, il y a un monde. Ou peut-être que l'écart est plus petit qu'il n'y paraît. Dans la discussion de l'article, nos chercheurs rappellent qu'il existe des drogues qui ciblent le système noradrénergique pour différents contextes cliniques. Le TDAH, l'anxiété, la dépression. Le noyau bleu est d'ailleurs l'une des premières structures atteintes par la maladie d'Alzheimer. Une méta-analyse réalisée par l'University College of London sur 19 essais cliniques et parue en juillet 2022 a constaté une légère amélioration des capacités cognitives globales de patients atteints d'Alzheimer lorsqu'ils recevaient un traitement noradrénergique. Parmi eux, on retrouve des médicaments conçus pour le TDAH ou encore le sevrage tabagique. Dans le cas de cette étude, les souris sont rendues malentendantes par un procédé indolore et qui ne cause pas de stress sur le long terme. Pas de pathologie neurodégénérative, ce qui exclut l'hypothèse de la cause commune. Les structures associées au conduit auditif étaient moins actives, ce qui ne soutient pas l'hypothèse de la privation sensorielle. On a une dégradation de la qualité de l'information auditive qui a entraîné une dégradation de processus dépendant de la réception auditive. Dans ce cas de perte de l'audition, c'est l'hypothèse de la dégradation informationnelle qui récapitule le mieux ce qu'il se passe. Mais dans d'autres études où la perte d'audition a été induite par des bruits forts, la baisse de neurogénèse dans l'hippocampe s'est accompagnée de niveaux plus élevés de stress et d'inflammation cérébrale. Non seulement l'inflammation peut à elle seule endommager les tissus, mais elle se retrouve aussi dans les maladies neurodégénératives. Il est donc nécessaire d'effectuer des études similaires à celles d'aujourd'hui pour comparer les circuits impliqués et adapter les solutions thérapeutiques à chaque contexte. Il est intéressant de constater à travers cette étude que les cellules ciliées externes de l'oreille, qui jouent un rôle d'amplification sonore, aurait donc un autre rôle lié à une perception inconsciente du son, avec un impact direct sur la santé cognitive des souris. Dans l'imaginaire collectif, le cerveau est encore décrit comme un organe très hiérarchisé et fragmenté, avec des structures régissant la perception sensorielle ou le mouvement, qui informent d'autres structures régissant des fonctions cognitives plus complexes. Comme de plus en plus d'études parues au cours de ces deux dernières décennies, celle d'aujourd'hui démontre que les structures cérébrales ont des fonctions et des interactions plus nuancées qu'on ne le croyait. Je laisse vos différents circuits auditifs enregistrer toutes ces informations et vous souhaite une très bonne soirée en attendant le prochain épisode.
C'était Boulot Manquant. Rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode sur Radio Campus Paris 93.9 FM.